9. Élise. Depuis qu'Édouard n'est plus boudin de porte, il se consacre à sa nouvelle carrière de castor. Il a attaqué la table basse, les pieds du buffet de l'entrée et le placard de la cuisine. Je suis étonnée qu'il ne chie pas des copeaux. Le vétérinaire affirme qu'il est dépressif. Son maître est parti. Il le vit comme un abandon. Je prescris un traitement, mais il sera inefficace seul. Vous devez l'aider à sortir du marasme. Jouez avec lui, parlez-lui, faites-lui sentir qu'il est important. Sur la route du retour, je l'observe dans le rétroviseur. Allongé sur la banquette arrière, la tête posée sur ses pattes avant, il contemple le vide avec un air mélancolique. Je ne sais pas ce que je vais faire de ce chien. Mes états d'âme m'encombrent déjà. Je ne peux pas prendre en charge les siens. Je me gare en bas de l'immeuble, saisis mon téléphone et lance un appel. Thomas décroche au bout de 3 sonneries.
« Salut, mam !»«
Salut, mon chéri, comment tu vas ?»«
Super ! C'est urgent ou je peux te rappeler plus tard ?»
Un bruit me fait me retourner. Je sursaute. La tête d'Édouard est à quelques centimètres de la mienne. Ses oreilles frétillent et sa queue joue les métronomes. Il a entendu la voix de son maître. « Rien d'urgent, je voulais juste des nouvelles. »«
Ok, bisous !»«
Bise, mon... » Il a raccroché. Il me faut plusieurs minutes pour réussir à persuader Édouard de descendre de la voiture. Il se traîne jusqu'à l'entrée de l'immeuble, il gravit l'escalier comme si la mort l'attendait en haut. Je l'encourage sans conviction, mais l'abattement est plus fort que moi. Ma patience appartient au passé quand on arrive à destination. Je ferme ma clé, range mes chaussures et fonce aux toilettes. Édouard s'assoit face à moi et me fixe de son œil droit. Je claque la porte en grognant. Les enfants de l'appartement du dessus courent bruyamment. Leur mère leur crie de se calmer. Quand je sors, le chien n'est plus là. Dans la cuisine non plus, pas dans la chambre de Thomas, ni dans la mienne. Après l'avoir ailé dans toutes les pièces, c'est dans le salon que je le trouve. Monsieur s'est tranquillement installé sur le canapé. En me voyant arriver, il tourne la tête et contemple le mur. Édouard, descends de là. Aucune réaction.
Allez hop, tu sais que c'est interdit.
Il ne bouge pas. Sa tête est presque à 180 degrés. Ses oreilles sont plaquées et ses yeux écarquillés ne quittent pas un point sur le mur. Ce génie croit vraiment que s'il ne me regarde pas, je ne le vois pas. Je ne peux pas m'empêcher de rire, provoquant immédiatement le déblocage de sa queue. Rien d'autre qu'elle ne bouge, frénétiquement, mais sur une faible ampleur, comme s'il cherchait à la contrôler. Sans réfléchir, je lance en direction de la chambre de mon fils.
« Thomas, viens voir ton chien !»
Évidemment, seul le silence me répond. Il m'arrive souvent d'oublier qu'il n'est plus là. À chaque fois la même gifle. 10. Lily. Ce matin, tu es montée au service de néonatologie au 4e étage. Tu n'as plus besoin d'être en couveuse. Une table chauffante te suffit. Ils affirment que c'est encourageant. Le service est découpé en 3 zones. Bleu, rose et verte. Tu te trouves dans la 2e. Tu as ton propre box, fermé par une porte vitrée. Les volets sont baissés afin que la lumière ne t'agresse pas. Autour de ton berceau, des machines, un fauteuil bleu, une chaise, une table, des tiroirs pour ranger tes affaires, du matériel de soins et, au mur, un tableau blanc sur lequel on peut dessiner, écrire ou accrocher des photos pour personnaliser ton premier chez toi. Ici, on peut venir à l'heure qu'on veut, de jour, de nuit, et rester aussi longtemps qu'on le souhaite. « Vous êtes chez vous », ils ont dit. Jusque-là, je n'avais pas osé te prendre dans mes bras. Ils me répétaient que ça te ferait du bien, que les effets du pot à pot avec les parents étaient incroyables. Je répondais que j'avais peur que tu aies froid, que je ne voulais pas te déranger. Tu dormais si bien. La vérité, c'est que ce n'était pas pour toi que j'avais peur. Je savais bien que ce serait foutu si je te sentais contre moi. Ce matin, j'ai dit d'accord. Je me suis assise sur le fauteuil bleu, j'ai retiré mon t-shirt et mon soutien-gorge et j'ai attendu qu'il te pose sur moi. La puéricultrice s'appelait Estelle. Elle était d'une douceur qui ne s'apprend pas. Elle ne parlait pas, elle chantonnait. Elle m'a aidée à t'installer en prenant garde à ne débrancher aucun fil. J'avais peur, tu sais, de ces peurs qui précèdent les rencontres importantes. Tu étais juste en couche. Tu as immédiatement trouvé ta position, recroquevillée contre mon ventre, ton minuscule visage posé sur mon sein. Je ne voyais pas le masque. Je ne sentais pas les tuyaux. Je n'entendais plus les bips. Je savais bien que ce serait foutu. J'avais les jambes qui tremblaient et un peu plus haut, sous la cage thoracique, dans un endroit qu'on appelle le cœur, une déflagration. J'ignore si tu vas vivre, mon amour, mais je vais prendre le risque. Et si ça tourne mal, et si le pire arrive, au moins j'aurai senti ton petit ventre se soulever contre le mien, tes petites mains s'agiter sur ma peau. Au moins j'aurai touché du doigt ce sentiment surpuissant, inconditionnel. Au moins je serai devenue mère. J'ai regardé l'heure. Mardi, 18 septembre, 9h43. L'instant précis où je t'ai reconnue.